Classique 21. You rock.
Classique 21, soundtrack, avec Laurent Deboeuf.
Yeah.
deuxième partie de Soundtrack et c'est la première séquence de ce matin que nous allons entamer ici. On vient d'ouvrir évidemment avec un extrait de l'album Ounce of Love, un album qui vient de fêter son 40e anniversaire. C'est un album évidemment incontournable dans la carrière de Kate Bush. Vous l'avez reconnu bien entendu avec ce morceau Running Up That Hill et on va parler de tout cela avec Dominique Raguet. Bonjour Dominique.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Oui, en effet, quel album, un album qui a marqué les années 80. Cinquième album de Kate Bush qui sortait le 16 septembre 1985. Ça fait donc exactement 40 ans et 37 ans plus tard après la sortie de cet album, souvenez-vous, grâce à la série Stranger Things, dont l'artiste était fan avant même qu'on lui demande de pouvoir utiliser ce morceau qu'on vient d'entendre, une nouvelle génération a donc découvert ce titre de Kate Bush. 1 milliard de streams,
wow.
Un succès populaire au Royaume-Uni. Mais depuis sa sortie, puisque dès 1985, l'album, qui est assez conceptuel, s'était placé directement en tête des meilleures ventes d'albums, détrônant ainsi Madonna, Like a Virgin, et surtout aussi le Brother in Arms de Dire Straits.
Ce qui n'est pas rien.
Non, et c'est vrai que c'est un voyage un petit peu hors format que cet album Hounds of Love. Je dirais une œuvre assez audacieuse, sans compromis, qui se décline en deux chapitres. Face A, avec des enchaînements de titres potentiellement diffusables en radio. Et puis une face B, qui est un voyage sonore avec beaucoup de relief, une véritable fresque de son, de climat, des ambiances fantastiques et qui vont parfois, à mon avis, chercher leurs racines dans des contes et légendes.
Ah oui, dans les contes et légendes, mais alors, sur quel personnage ?
Différents personnages. Il y a d'abord un personnage central dans toute cette œuvre de Kate Bush, c'est la figure de la sorcière, qui est très très présente dans cet album, et pas seulement avec le morceau Waking the Witch. Parfois, il y a ce côté très cérémonial dans cet album, avec ce côté rite, avec cette montée en transe par la répétition, on vient l'entendre justement avec Running Up That Hill. On touche parfois aussi au sacré, mais avec ce morceau Running Up That Hill, c'est Deal with God. Donc c'est faire un pacte avec Dieu. Avec Dieu. D'ailleurs, ce morceau, dans certains pays, à l'époque de sa sortie, notamment en Irlande et en Italie, avait hésité à le diffuser en radio parce qu'on touchait justement à quelque chose
à
de sacré.
Foi,
on ne deal pas avec Dieu, avec la foi. Et en fait, le principe de cette chanson, qu'est-ce qu'elle a imaginé ? Elle a imaginé qu'on fait un pacte avec Dieu pour échanger les rôles entre un homme et une femme. C'est-à-dire que c'est une manière, si on pouvait ainsi, moi, si je devenais demain une femme et que ma compagne ou ma femme devenait moi-même, on pourrait peut-être mieux se comprendre. C'est une façon de renouer avec un certain
dialogue. Il y a déjà eu des films sur ce genre de sujet.
Oui, mais c'était des comédies.
Ah oui, bien sûr.
Là, elle est très très sérieuse.
Oui, quand même.
C'est vrai que c'est un album qui a une grande part de féminisme, en tout cas, dans son propos. Et il faut revoir le clip de ce morceau. C'est assez intéressant parce que on voit une chorégraphie, on voit un couple qui danse, et d'ailleurs c'est Kate Bush qui danse parce que c'est une très très grande danseuse. D'ailleurs sa passion pour la danse, elle l'avait traduite, cette passion, dans un autre album, quelques années plus tard, en 93, sur l'album With the Red Shoes. Et là c'est vrai, quand on regarde ce clip, eh bien on se rend compte que c'est pas toujours l'homme qui mène la danse, c'est parfois elle qui emporte,
qui conduit.
Voilà, exactement. C'est vrai que dès avec cette ouverture Running Up That Hill, Kate Bush avait marqué un grand grand coup avec des titres porté par cette rythmique, on l'a dit, assez hypnotique. Et puis, il y a derrière tout ça une production assez innovante. Et puis, si ce disque marque un tournant décisif dans sa carrière, d'ailleurs, un album qui a été enregistré un peu pendant 2 ans, toute seule, dans un manoir, enfin une demeure en tout cas victorienne, c'est dans le sud-est de Londres, elle s'est enfermée, puis elle a terminé, finalisé son album à Dublin, dans ce fameux studio qui a vu défiler entre autres U2, c'est le Windmill Lane à Dublin, qui est très très connu. Alors je le disais, cet album se distingue en deux parties, et sur la première partie qui est plus accessible avec différents morceaux qui sont plus radiophoniques, et bien en fait elle explore vraiment des émotions primaires, surtout les peurs, le désir, l'émerveillement, et d'ailleurs les peurs d'enfant. Alors il y a un titre qui a été inspiré par un film, parce que Kate Bush, quand elle était petite, elle allait aussi parfois regarder la télévision et y diffusait des films en noir et blanc qui font peur, et notamment un film de 57 de Jacques Tourneur qui s'appelle Night of Demon, Et c'est un film effrayant, et elle s'est inspirée de cette peur qu'elle avait eue quand elle était enfant en regardant ce film. Et c'est pour ça qu'on entend sur un des titres de cet album, Hounds of Love, le début de ce morceau est tout droit sorti d'un dialogue de ce film, où on entend une voix qui fait « It's coming, it's from the trees !» Parce qu'en fait, les monstres viennent des arbres.
Ouais, ok, d'accord. Et alors, Running Up That Hill, bon, on sait que Kate Bush avait été découverte par David Gilmour, et je me souviens qu'il y avait eu une version live qui était peut-être même pour la télévision, où David Gilmour tenait la guitare sur cette chanson.
Oui, je crois qu'il a donné pas mal de coups de main d'ailleurs.
Pareil. Oui, ça c'est sûr.
Ils venaient régulièrement au studio, en tout cas, ils avaient un grand, grand dialogue.
Tout à fait, oui. Ici, on va se replonger dans la plage titulaire de cet album, Hounds of Love. She's in the trees. It's coming. Of Love, à l'instant, donc ça c'est la plage titulaire bien entendu de cet album que nous mettons à l'honneur ce matin pour son 40e anniversaire, et dans cette chanson on entend hein, ce petit détail.
Le petit dialogue de ce film d'épouvante Night of Demons, qui est de Jacques Tourneur.
Voilà.
Alors là c'est un des titres qui est plus radiophonique avec un format, parce qu'en fait elle a vraiment pensé cet album, Hounds of Love, en deux parties, face A et face B, on l'a dit, avec en face B la seconde moitié qui s'intitule The Ninth Waves, qui forme une suite très très conceptuelle de sept morceaux. Kate Bush, là, à travers ces sept morceaux qui s'enchaînent, eh bien, imagine une femme qui est à la dérive en pleine mer et qui lutte pour sa survie. Véritable pièce sonore, hein. C'est avec énormément de spatialisation du son. Il y a vraiment un travail de metteur en son, j'allais dire, avec des voix qui viennent un peu partout. Et puis, pour donner à cet univers un petit peu particulier, Kate Bush s'est entourée de musiciens fidèles. On retrouve par exemple à ses côtés Paddy Bush, hein, qui est son frère, qui là joue les instruments traditionnels, parce qu'elle va aussi rechercher dans le folklore. On entend quelques ballades comme ça qui pourraient nous emmener du côté de l'Irlande d'autrefois. On entend aussi des cordes celtiques. Il y a aussi, et derrière tout ça, un gros travail, et surtout un travail réalisé par Del Daniel Palmer, mais aussi par Kate Bush, sur ce fameux synthétiseur Fairlight CMI, où elle a vraiment pendant des mois travaillé tous les sons. En fait, elle prenait les sons, elle s'enregistrait elle-même, même sa propre voix, et elle retriturait toutes ses voix et toutes ses sons pour faire un petit peu comme de l'argile, pour en faire une sculpture sonore.
D'accord.
C'est, okay. c'est un peu conceptuel, mais c'est comme ça qu'elle
a travaillé. C'est un fameux boulot, ça.
Oui, oui. Mais deux ans de travail.
Ah oui, c'est ça.
Même 2 ans de travail pour essayer de nous plonger dans cette pièce de théâtre sonore où on entend régulièrement beaucoup de bruitages, bruit d'hélicoptère, transmission radio, voix avec des différents timbres de voix qui viennent de très très loin, parfois en écho, parfois c'est tout proche. Par exemple, c'est « Wake up, darling mm-hmm. ». On entend des petits chuchotements et puis aussi des bruits de baleines. Et alors que je le disais, il y a cette figure de la sorcière et du côté presque, je le disais, cérémonial, le côté où on peut rentrer en transe après je ne sais quel rite, peut-être pas satanique, mais en tout cas derrière un rite. Et on entend aussi des voix qui font peur. Et elle a travaillé en mettant les bandes sonores à l'envers, un petit peu comme l'ont fait les Beatles sur Sgt. Pepper, pour donner cet effet un peu diabolique.
D'accord. Et avec tous ces sons, je me dis, c'est peut-être un album qui serait intéressant, vu que c'est en plus à la mode maintenant, de le remixer en Dolby Atmos. C'est peut-être...
Il faut absolument... Oui, oui, je pense pas qu'il a été remasterisé. Moi, j'ai écouté une nouvelle version masterisée. Mais en Dolby, ça serait très, très intéressant. Parce que, il faut, voilà, à l'époque, on s'installait, on faisait une face. C'est la face B. Ouais. Et on s'installe dans son fauteuil et on écoute bien en stéréo. Et c'est vraiment un voyage qui va chercher aussi parfois, dans des airs traditionnels de chant grégorien. Elle utilise un chant grégorien, qu'elle avait découvert quelques années auparavant. Et ce chant grégorien avait également été utilisé par Herzog pour son film Nosferatu. L'ouverture du film Nosferatu avec Klaus Kinski et avec Isabelle Gianni s'ouvre sur ce thème de chant grégorien qu'on retrouve sur le morceau Hello Earth, qui est un des voyages, en tout cas une des pièces de cette suite d'enchaînement d'espace sonore qu'on retrouve sur la face B de cet album.
Et cette chanson, on va en écouter quelques bouffées dans un instant, ce sera juste après ceci.
Classique 21 Soundtrack.
Hello Earth, et donc ce ne sont que quelques mesures ici de cette chanson, mais qui est aussi un incontournable de cet album Hands of Love, donc que nous auscultons, que nous passons donc encore une fois à la loupe ici pour son 40e anniversaire. Et donc vous parliez aussi de Nosferatu, c'est tout à fait contemporain parce qu'en plus ça vient de nouveau être adapté.
Oui, c'est sorti il y a quelques mois.
Je l'ai vu, c'est pas mal du tout. Ouais, enfin bref, nous on est plutôt là pour parler de Kate Bush et surtout de cet album. Of Love.
Oui, on peut se poser aussi la question pourquoi il est si unique cet album. Finalement, c'est parce que je trouve qu'il a, enfin pour moi en tout cas et pour beaucoup, il parvient à réconcilier deux univers, un univers pop et puis un univers artistique, audacieux, on l'a dit, et elle a réussi surtout à que ça marche, que ça fonctionne, puisque cet album cartonne toujours encore actuellement.
Quand je pense à Kate Bush, je pense aussi parfois à Björk, même si leurs univers sont différents, mais c'est un peu le même genre de personnalité qui va à fond dans ses recherches, dans l'élaboration des sons, etc.
Ben effectivement, d'ailleurs, c'est l'importance de cet album qui est effectivement assez expérimental, mais qui reste accessible et qui est empreint de poésie, effectivement, a eu un énorme impact sur des générations futures. On l'a dit, Björk, ça c'est une évidence, Tori Amos aussi,
oui.
Ou même des artistes comme Florence and the Machine.
Tout à fait.
Ils vont chercher justement dans un folklore parfois ancien et qui arrive à le marier avec des sonorités et des sons un peu plus contemporains. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a toujours derrière cet album, comme dans la plupart d'ailleurs de la discographie de Kate Bush, c'est qu'elle va souvent chercher beaucoup de références. On l'a dit il y a un instant, référence à ce film. Et puis, son premier hit, Wuthering Heights, était inspiré par Léo de Hurlevent d'Emily Brontë. Et là aussi, elle fait référence à un bouquin avec l'autre grand succès de cet album, Claude Busting. Claude Busting, qui est en fait le briseur de nuages. Et c'est inspiré par un livre qui s'appelle Book of Dreams et qui est signé par Peter Reich, qui est le fils d'un grand psychanalyste des années 30 qui a connu Sigmund Freud et qui travaille beaucoup sur les pulsions sexuelles et surtout sur, on va dire, le côté oral et le plaisir qu'on peut avoir avec l'oralité.
D'accord.
Je résume très rapidement, parce que sinon on est parti pour des heures, c'est presque un doctorat.
Tout un programme.
Et donc elle s'est inspirée de ce bouquin pour écrire ce Claude Busting qui parle en quelque sorte de cette façon qu'on pourrait imaginer quelqu'un qui serait capable de savoir quel temps il va faire et surtout de dominer, de gérer ce temps. D'ailleurs, le clip vidéo, c'était un homme avec une machine un petit peu étrange. Allez revoir ça, c'est un petit côté Terry Gilliam où on voit quelqu'un qui est elle devient maître de la météo avec dans le rôle principal un certain Donald Sutherland.
Écoutez, si on pouvait en avoir un comme ça chez nous en Belgique, ça nous arrangerait. On va terminer donc avec ce Claude Busting en vous remerciant bien entendu mon cher Dominique. Je vous dis pas rendez-vous la semaine prochaine, ce sera plus
la petite parenthèse et puis on se revoit d'ici deux semaines.
Ok. Oh, Busting, qui vient refermer donc cette séquence spéciale ce matin pour les 40 ans de l'album Hounds of Love de Kate Bush avec Dominique. Merci encore à lui.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.